Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur La Route Inconnue, un numéro de La Route Inconnue tout à fait exceptionnel. Il s'agit de la rediffusion d'une très longue interview que nous avait accordée le grand Kenneth White, poète, voyageur, nomade intellectuel. Kenneth White qui sera à Chartres à l'initiative de votre radio préférée les 27 et 28 mai prochains, un événement culturel dont nous partageons la paternité avec la librairie L'Esperluette et la médiathèque de Chartres. Il y aura le vendredi 27 mai à 18h une rencontre lecture avec Kenneth White à la librairie L'Esperluette qui est axée autour de son nouveau livre La Mer des Lumières. Et puis samedi 28 mai à 15h30, une rencontre conférence Le Pèlerin de la fin d'un monde, nomadisme intellectuel et géopoétique. Pour ceux qui ont la mémoire courte ou qui ne connaissent tout simplement pas Kenneth White, je vous propose donc d'écouter la rediffusion d'une longue interview qu'il nous avait accordée l'an dernier. Kenneth White au micro de Radio Rancière, en attendant de le voir en chair et en os les 27 et 28 mai prochains à Chartres. Kenneth White, né en 1936 dans le quartier des Gorbals à Glasgow en Écosse, père signaleur au chemin de fer, grand-père ouvrier, chanteur, danseur, enfance et adolescence à Fairly sur la côte ouest, et c'est peut-être là, entre mer, bois et landes, Kenneth, que votre aventure cosmopoétique ou géopoétique, comme vous voudrez, commence. Est-ce que c'est là, au bord du rivage, du grand rivage?
Oui, tout à fait. Écoutez, bonjour Christophe Jubien.
Bonjour.
Bonjour Grand Ciel. Hein. Ok, donc les commencements. Ben, mes ancêtres, je ne m'occupe pas beaucoup de généalogie, et ce mot est un peu grandiloquent peut-être, mais mes ancêtres sont descendus du Haute-Terre d'Écosse, dans la région industrielle du pays au 19e siècle, pour trouver du travail. Quoi, hein. Voilà le background. Donc, mais il restait quand même des traces des Hautes-Terres chez mon grand-père. Il était, comme vous venez de le dire, musicien et danseur. Il était cornemuseux, en fait. Alors, ce qu'on sait de la cornemuse en général, en France ou ailleurs, c'est des airs militaires, quoi. L'adieu du 42e régiment de Gibraltar, etc. Mais mon grand-père s'intéressait à une autre musique de la cornemuse, ce qu'on appelle en gaélique, dans la langue celtique de l'Écosse, la grande musique. Très, très complexe, extrêmement complexe. Il faisait ses propres partitions, mais il les jetait au feu, parce qu'il n'était jamais content. Très, très autocritique.
Ouais.
Quand il s'est marié, il a voulu fonder une famille. À ce moment-là, il fallait qu'il ait... Il a sillonné l'Écosse comme musicien et danseur pendant des années. Mais bon, il a voulu fonder une famille. Et donc, il fallait qu'il trouve un travail, disons, plus régulier, avec un salaire. Quant à mon père, bon, très bon élève à l'école, excellent même, mais obligé de quitter l'école très tôt. C'était le cas de beaucoup de gens de mon espèce, donc et de la sienne. Donc, quitte l'école très tôt à cause des besoins de l'économie familiale. Hein. Mais il était grand lecteur et autodidacte. Aussi, je le dis en passant, syndicaliste, socialiste. Il était élevé dans la grande ville, mais il voulait élever, je lui suis très reconnaissant pour ça, je le salue, il voulait élever ses enfants, j'étais seul à l'époque, mais j'ai eu une sœur après, et il voulait les élever non pas dans la ville, dans la grande ville industrielle, une grande ville industrielle d'ailleurs, un grand port de Glasgow, un peu infernal, c'était un peu la saison en enfer de Rimbaud, quoi. Il voulait les élever dans un contexte plus naturel. Donc j'ai passé mon enfance et mon adolescence dans un petit village de la côte ouest, et là, effectivement, vous avez raison que, pour moi, tout commence, quoi. Hein. Bon, en tant qu'enfant, petit garçon, j'appartenais à un gang, j'étais même chef de gang, on se cognait dessus gaiement, hein. C'était la pratique des enfants de l'époque. mais j'en ai eu assez vite assez, quoi. À 12 ans, j'en avais assez de faire les guerriers, si je puis dire. Mais je suis toujours resté très social, quoi. Hein. Je faisais un tas de petits boulots dans le village, je livrais le lait, je livrais les journaux, je travaillais dans les fermes, plus tard j'ai travaillé sur les bateaux qui faisaient la navette entre les ports de la côte.
Ouais. Ce qui explique la dimension physique de votre poésie, non?
Ouais, moi je connaissais tout le monde. Je vais insister là-dessus parce que je suis très au courant des choses sociales, quoi. J'ai jamais été dans la lune, l'image qu'on a un peu de la, du poète, quoi. Non, j'ai jamais été comme ça. Mais en écoutant les conversations des gens, j'avais l'impression que personne ne comprenait personne. Et à ce moment-là, j'ai commencé à entrer dans une grande solitude. Et je faisais de grandes randonnées. D'abord à travers les champs de l'agriculture. J'avais beaucoup de sympathie pour les animaux, mais c'est pas l'agriculture qui m'attirait le plus. Ensuite, la forêt. Alors là, c'était formidable. J'avais 13, 14 ans. J'allais parfois passer des heures, même dans la nuit, dans la forêt, à écouter les bruits de la forêt, à écouter les animaux, à imiter les chants des chouettes, par exemple. Et ensuite, il y avait les landes. Et c'est là où tu commences, quoi. Parce que dans les landes, il n'y avait presque rien. Et il n'y avait que le vent, le vide, quoi. Hein. Alors, je marchais pendant des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des heures et des heures et des heures sur les landes, là. Et là, j'ai eu une expérience qui a été mon expérience première. Et c'est le début de tout. Mais il fallait remonter à ça et dire tout le contexte. J'avais l'impression de sortir de moi-même, quoi. Une sorte d'extase, hein, au sens grec. Extase, sortir de soi-même. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas de langage pour cette expérience. Le langage ordinaire ne suffisait pas. Le langage social que je pratiquais très bien. Le langage que j'apprenais à l'église ne me satisfaisait pas non plus. J'étais très, très fort en études bibliques, etc. Mais non, je sentais que j'avais besoin d'un autre langage, tout en utilisant les éléments des deux que je viens d'indiquer. Et j'ai donc cherché, c'était au début, des moyens d'expression. Ensuite, j'ai fait des études en langue et en littérature, et ensuite, il y a eu les voyages. Mais le commencement est là. Et je dirais, pour conclure peut-être cette petite première question, que, ma foi, essayer et commencer sont, pour moi, les deux plus beaux mots de la langue, quoi. Uh-huh. Commencer, essayer. Essayer de recommencer.
Voilà. Commencer à recommencer, oui.
Je vous ouais.
Alors, vous avez publié près d'une centaine de livres, hein, depuis la parution de En toute candeur en 1964 au Mercure de France, dans ouais. une traduction de Pierre Léris, je le dis. Et c'est dire si vous êtes écrivain, mais cependant, il me semble que vous êtes bien plus que cela. Vous êtes ermite, vous êtes voyageur, vous êtes un intellectuel, un poète, un arpenteur du monde et des littératures du monde aussi. Vous êtes toujours sur la brèche. Mais que cherchez-vous donc que vous n'avez pas encore trouvé, Ken?
Bon, ce sont des questions très chargées. Bon, 100 livres, vous dites, ah, dis donc, tant que ça. Je n'ai jamais fait le compte. Je fonce toujours en avant, quoi. Hein. 100 livres. Bon, peut-être que je n'ai pas encore autant écrit que Victor Hugo ou Léon Tolstoï, mais apparemment, je m'en approche.
Voilà, vous êtes sur la bonne voie.
C'est ça, oui. Bon, écrivain, vous avez prononcé le mot écrivain et vous avez dit que je suis sans doute plus que ça. Bon, c'est vrai que ce mot écrivain couvre tout et rien, quoi, hein. Moi, j'aime beaucoup un des auteurs qui m'a influencé le plus. En poésie, il y avait Rimbaud. En philosophie, il y avait Friedrich Nietzsche. Et Rimbaud, donc à la fin du 19e siècle, disait déjà beaucoup d'écrivains, peu d'auteurs. C'est une phrase très chargée. Il connaissait très bien le latin, comme moi, Rimbaud. Et il savait très bien que le mot auteur vient du latin augeri auctum. Et un auteur à l'encontre d'écrivains qui se contentent de raconter des histoires, de distraire, etc., etc. Un auteur, c'est celui qui augmente. Et qui augmente quoi? Eh bien, je dirais qui augmente la sensation de vie. C'est ça qui marque un vrai auteur. Mon but, donc, vous me demandez ce que je vise. C'est difficile de dire en une phrase, mais mon but, autant ouvrir une grande phrase tout de suite, hein. Mon but, c'est d'ouvrir un monde. Ouvrir un monde plus vivable que celui dans lequel nous sommes tous piégés, emprisonnés. Et j'ai dit tout de suite un monde ici sur Terre, pas un autre monde, et pas une utopie. Et si on veut ouvrir un monde, ma foi, ça prend du temps, ça prend de l'espace, ça implique beaucoup de livres, une centaine, vous venez de dire. Parce qu'il s'agit à la fois de suivre des chemins de culture, de suivre des pistes de pensée et de suivre aussi des sentiers du sentir. Hein? Il faut les trois. Et pour décrire le travail que je fais et son but, ça m'est arrivé de présenter les choses de deux manières. On peut considérer les trois sortes de livres que je fais, parce que vous dites que je suis plus que poète, en ce sens que je fais plus que de la poésie. C'est vrai. J'ai besoin d'essais pour penser différemment. J'ai besoin de prose narrative qui n'est pas du roman. Le roman ne m'intéresse pas du tout. Et j'ai besoin aussi du poème, quoi. Et j'ai décrit ce travail triple comme une flèche. Les essais qui donnent la direction, ça, ce sont les, ça, c'est les essais qui donnent la direction. La tige de la flèche, ça, c'est les livres de prose narrative qui racontent non seulement des voyages, mais une vie, je dirais une vie en mouvement. Et puis la tête de la flèche, c'est le poème. Et bien sûr, la flèche indique un espace, une dimension, un monde. Hein. Une autre manière de le dire, ce serait de dire que les essais représentent une carte, une cartographie. La prose narrative, livre de voyage et de séjour, ce sont des chemins et des lieux à l'intérieur de cette carte. Et le poème, ce sont des moments plus denses, plus intenses, le long de ces mouvements. Voilà ma réponse brève à cette deuxième question, comme je disais, très chargée.
Alors, vous êtes, Kenneth White, un homme à la culture prodigieuse qui remonte d'ailleurs très très loin. Hein. On va dire que ça va aller de Taliesin à Sioran, par exemple. Et puis, oui. C'est un peu ça, hein, voilà. Et puis, alors, vous avez des références multiples. Il y a le tao-bouddhisme, bien sûr, mais aussi les pré-socratiques et aussi les celtes. Le rapport entre le taoïsme et les celtes, selon vous?
Ouais, bon... Afin d'ouvrir un monde plus riche, bon, riche au sens existentiel, bien sûr, je ne parle pas de finances et de richesses, mais j'ai senti le besoin d'explorer, ma foi, les cultures du monde. Et pourquoi? Parce que toutes les cultures sont partielles. Elles ont tous leurs avantages et elles ont tous leurs désavantages. L'une va insister sur un aspect des choses, l'autre va insister sur un autre, et ils négligeront d'autres aspects que d'autres cultures auront développés. Donc, pour avoir le sens d'une culture à tant que soit peu complète, et ça c'est mon but, c'est l'énorme but que j'ai dans mon travail, c'est d'essayer ou de voyager de l'une à l'autre. Depuis le début de l'humanité, il faut savoir ça, il y a eu à peu près une trentaine de grandes cultures. Depuis le début de l'humanité, une trentaine de cultures, avec bien sûr des colorations de locales, bien sûr, mais une trentaine de grandes cultures. Et ce qui est formidable aujourd'hui, parmi toutes nos misères et nos difficultés et nos traquenards et nos tracasseries, ce qui est formidable quand même aujourd'hui, c'est qu'on peut y avoir accès. Il y a eu des traducteurs qui ont fait un travail immense. Alors moi, j'ai passé longtemps à étudier ces cultures du monde, une trentaine. D'où le besoin de ces 100 livres que vous avez évoqués. Mes langues de travail à moi, j'en ai trois, c'est l'anglais, le français et l'allemand. Donc je lis tout ce que je peux en anglais, français et allemand. En latin, j'étudie beaucoup les classiques aussi, latin et grec, hein, beaucoup, depuis mes années d'étudiant. Et avec à côté, bien sûr, un peu d'italien, un peu d'espagnol, un peu de portugais. Mais les traductions, donc je traversais grosso modo ces trentaines de cultures, avec toujours dans la tête un thème central qui est le rapport au monde. Ce qui m'intéresse dans toutes les cultures, c'est comment ils ont essayé de concevoir leur rapport au monde, ce monde-ci. Alors, vous avez pointé quelques cultures précises, je vais en parler maintenant un tout petit peu plus précisément. Oui. Moi, j'ai commencé en Écosse, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire... Or, en Écosse, malheureusement, depuis la réunion avec l'Angleterre au XVIIIe siècle, l'Écosse est plutôt submergée culturellement, provincialisée politiquement. Donc, c'est une certaine culture anglaise qu'on apprenait, qui m'intéressait un peu, mais pas trop profondément. Donc, j'ai commencé mes propres recherches. Et la culture écossaise, bien sûr, à l'origine, était une culture celte. Une culture celte très caricaturée, les notions de la culture celte sont très très caricaturales, depuis longtemps, depuis la conquête romaine quoi. Les Grecs connaissaient assez bien la culture celte, ils avaient des rapports de commerce et de culture avec eux, mais la conquête romaine c'était piller et détruire quoi. Hein. Bon, donc la culture celte, qu'est-ce qu'on connaît de la culture celte? Bon, une certaine une certaine rudesse guerrière. Bon, je veux bien, effectivement. Les Grecs avaient des mercenaires celtes. C'était des rudes guerriers. L'armée britannique s'en est servie en mettant toujours les Écossais en première ligne pour les faire bousiller. Mais ce qui m'intéresse dans la culture celte, ou celtique si on veut, c'est leur rapport à la nature, un rapport formidable. Hein. Il suffit de lire les poèmes païens datant d'avant le christianisme, dans le cycle de Fénn, pour être un peu précis, F-I-2-N, pour voir ce rapport à la nature, le rapport à la forêt, le rapport au vent, qui va revenir, bien sûr, dans la culture européenne au XVIIIe siècle, avec le romantisme, mais un romantisme européen plutôt fade par rapport à ce que j'ai connu des origines. Mais je ne me suis pas arrêté au paganisme celtique. Ce qui m'intéresse aussi, c'est les moines des monastères celto-chrétiens à la frontière du paganisme et du christianisme. Ça m'intéresse prodigieusement. Il y avait une pensée dans ces monastères celto-chrétiennes vraiment d'une très grande envergure et d'une très grande profondeur. Par exemple, et c'est déjà énorme, au tout début du Moyen-Âge, là, de 4e, 5e siècle, ces penseurs celto-chrétiens, ils étaient chrétiens, étaient contre l'idée du péché originel avancé par saint Augustin, par exemple.
Hein? Oui.
Hein? Et ces moines celto-chrétiens, celtiques et chrétiens, ont commencé à déferler sur l'Europe, 5e, 6e siècle, en fondant partout des monastères, des écoles, des bibliothèques. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ça. Par exemple, c'est les Celtes qui ont fondé Luxeuil en France, Saint-Gall en Suisse et Bourbion en Italie.
Oui.
Hein? Et ça, ce sont mes ancêtres intellectuels.
Pélage, par exemple.
Pardon?
Pélage, par exemple.
Ben, Pélage, effectivement, était un de ses moines. Pélage, en latin, Pelagius, l'homme de la mer, et c'est lui, nommément, qui s'est opposé à Saint-Augustin. Et c'est pour ça que Rome a envoyé en Écosse, contre Pélage, Saint-Jérôme, pour argumenter avec lui, pour le convaincre qu'il avait tort. En fait, c'est Pélage qui avait des arguments beaucoup plus fins, de sorte que Saint-Jérôme en était réduit à simplement l'insulter, en disant, il parlait latin ensemble, bien sûr, qu'il était... Pultibus scotis pregraratus, alourdi de porridge écossais. Non, Pélage, j'adore. Bon. Donc, ces Celtes aux chrétiens m'intéressent énormément. Je dis, ce sont mes ancêtres intellectuels. Ces Celtes aussi, maintenant confinés dans presque des enclaves, ou pour ne pas dire des ghettos. Il ne faut jamais oublier, je me suis plongé dans cette histoire-là, histoire culturelle de l'Europe, qui m'intéresse énormément. Les Celtes ont traversé l'Europe, peut-être depuis les steppes eurasiatiques. Hein? Et puis mon intérêt, par exemple, je trouve qu'entre la pensée celtique et la pensée extrême-orientale, ouais, il y a des rapports, et je me suis plongé là-dedans, comme vous venez d'esquisser très rapidement. Quoi, hein?
Ouais.
Mais, et ce rapport celte à la nature, qui, comme je disais, n'arrive en Europe qu'avec le romantisme, on peut trouver des parallèles, des parentés avec les premiers penseurs grecs, les pré-socratiques, c'est-à-dire avant le début du rationalisme un peu sec de Socrate, par exemple, chez les pré-socratiques comme Héraclite. Là, il y a un rapport très net. Il y a un rapport très net avec les Taos chinois ou les zénistes du Japon, et avec certains poèmes amérindiens que j'ai beaucoup... cité ici et là dans mes livres et dans mes livres de voyage.
Il y a vraiment là une sorte de civilisation, d'esprit qui s'étend, on va dire, de l'Extrême-Orient jusqu'en Amérique du Nord, qui est passé par le détroit de Bering, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Écoutez, à partir de l'Écosse, moi j'ai commencé à explorer ce que les Grecs appelaient les pays hyperboréens, c'est-à-dire tout le complexe circumpolaire. Et il y a des rapports très étranges entre... la poésie, la culture, la pensée amérindienne, la culture celte et la culture extrême-orientale par le Nord. Mais une fois qu'on a couvert le Nord, moi j'ai commencé à explorer bien sûr l'Ouest, le Sud et l'Est. Tout m'intéresse, quoi. Ouais. Tous les points cardinaux.
Ouais. Ouais. Alors évidemment, Kaneswa, avec votre lecteur, est assuré de faire de grands voyages hein, à vos côtés. Le Japon dans les cygnes sauvages, le Labrador dans la fameuse route bleue, et puis l'Alaska, là, dernièrement, dans des vents de Vancouver.
Ouais.
Mais vos livres nous font aussi voyager dans le temps sur les traces de vos héros, si j'ose dire. Alors il y a le poète chinois Han Shan, il y a Henri Thoreau, le transcendantaliste américain, il y a Henry Miller, que vous aviez surnommé le taoïste de Brooklyn, et puis il y a votre compatriote, évidemment, Hugues McDiarmid. Alors je dis héros, mais ce sont plutôt, en vérité, me semble-t-il, des compagnons, ce sont des gens qui sont encore vivants pour vous.
Oui, bah, tout à fait, oui. Disons que moi, je ne m'enferme pas que dans le contemporain. Une contemporanéité enfermée dans son contemporain manque énormément de choses, quoi. Hein. Bon, pour parler de mes livres de voyage, là, il se passe beaucoup de choses dans ces livres de voyage. Ils sont plus que des romans, bon, qui situent une intrigue dans un contexte social, bon. Mais ce sont plus aussi que des livres de voyage où on traverse des territoires, comme plus ou moins de bougeottes, avec quelques petites remarques ici et là. Non. Je sens le besoin de temps en temps d'inventer des nouveaux mots. Et pour le livre de genre de livre de voyage, entre guillemets, que je fais, j'ai utilisé en anglais le terme waybook. En allemand, ça donne Wegbuch. En français, j'ai dit livre itinéraire, pour faire la distinction entre les livres de voyage. Parce qu'il s'agit à la fois d'exploration des territoires, il s'agit d'exploration de culture, ce qu'on vient d'évoquer dans les autres questions. Et puis, oui, vous avez raison. J'aime, comment dire ça? J'aime donner la parole à disons, mes compagnons de route. Voilà, compagnons de route, j'aime beaucoup cette phrase-là, quoi. Hein. C'est-à-dire, ceux qui ont cheminé à différentes époques, nord, sud, est et ouest, même mes compagnons de route peuvent être chinois, japonais, indiens, européens de toutes sortes. Donc ceux qui ont cheminé à peu près, de la même manière que moi, sur des pistes parallèles, quoi, sur des sentiers parallèles. Et j'insiste, à travers le temps et l'espace. Je ne me situe pas dans un cadre particulier, même pas dans une nation particulière non plus, dans une culture nationale. Et cette méthode-là de faire de multiples références, de faire parler d'autres, c'est tout le contraire de la méthode littéraire qui consiste, pour moi, trop souvent à tourner autour de son petit moi, tourner autour de la personne enfermée dans son petit moi, dictée par une certaine éducation, une certaine idéologie, etc., avec ses propres petits fantasmes. J'essaye, comme je disais, et c'est presque mon leitmotiv, d'ouvrir un monde, et pour ça, il faut suivre des chemins. Il faut essayer d'explorer des champs. Voilà, ça prend du temps.
Alors, tous les
Et ces
personnages que je...
compagnons de route
Ouais.
m'aident à diversifier, à ouvrir l'espace que je vais explorer.
Ouais. Alors, ces compagnons de route, c'est tous des sacrés gaillards aussi. C'est des types qui sont vraiment un peu en rupture avec leur milieu. Han Shan, tout le monde se fout de lui. C'est un taoïste, mais un taoïste, dites-vous, qui aime pas trop faire de zazen. Henri Thoreau, bah, il part vivre dans les bois. Henri Miller, on n'en parle même pas. C'est tous des sacrés, des types carabinés, quoi.
Mais tout à fait.
C'est un peu votre cas aussi.
Hein, quoi?
C'est un peu votre cas aussi. On peut dire que vous êtes
Oui,
en rupture avec le...
ceux qui m'intéressent effectivement, quand vous dites, sont sortis de leur cadre. Je parlais tout à l'heure de l'union avec l'Angleterre en 1707 au XVIIIe siècle. À ce moment-là, beaucoup d'Écossais sont partis vers l'Europe ou vers l'Amérique pour aller vivre avec les Indiens, avec les Amérindiens. Ils préfèrent vivre avec les Indiens qu'avec les Anglais. Enfin bon.
C'est
Vous avez dit que ce sont des gens qui
ouais,
quoi, que vous avez dit exactement, qui
voilà
aiment les grands espaces.
oui.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire moi-même, quoi. Hein. En général, mes livres de voyage commencent dans une grande ville que je vais explorer en long et large, les rues, les ruelles. Ensuite, je suis un chemin. Ensuite, on arrive dans un espace ultime.
Oui.
Bon, la route bleue, Montréal, ensuite le chemin Côte-Nord du Saint-Laurent, Amérindien, ensuite les hauteurs du Labrador, le vent, la neige, le vide, quoi. Hein. Les signes sauvages, Tokyo, la route du Nord, ensuite Hokkaido, le grandir septentrional du Japon, qui n'est déjà plus le Japon, on est presque en Sibérie. Hokkaido, en japonais, le chemin de la mer du Nord, où je, à la fin, il y a une irruption, presque une apothéose, c'est l'arrivée des signes sauvages. Et dans le vent de Vancouver, bon, j'avais fait la route bleue à l'est de l'Amérique. Là, je voulais faire l'ouest de l'Amérique. Et bon, je commence par Vancouver, le capitaine Vancouver, qui a une mission très difficile, faire la topographie d'une côte inconnue, complètement inconnue, avec des cartes inexistantes ou mauvaises, suivant un labyrinthe extrêmement compliqué, avec des vents contraires, avec des perturbations météorologiques dans ce tourbillon du Pacifique Nord qui faisait que ces instruments ne marchaient pas, quoi. Et si je commence par ça, si j'ai commencé ce livre Les Vents du Nord par le voyage du capitaine Vancouver, encore un compagnon de route, c'est parce que ça me semble à l'image de notre monde, quoi. Il est difficile d'y voir clair. Tout le monde a du mal, je pense, à y voir clair dans la confusion de notre monde. Et mon travail consiste à essayer d'y voir clair, quoi, d'ouvrir un champ de vie. Ouais. Et si j'ai consacré le vent de Vancouver après le Labrador, cette autre côte sauvage de l'Amérique, à la côte nord-ouest, c'est-à-dire à l'Alaska, c'est pour la raison que je viens de dire, parce qu'il y a ce voyage de Vancouver, mais c'est aussi parce que, malgré les menaces qui pèsent aussi sur l'Alaska, comme sur tant d'autres parties de notre monde, c'est encore quand même un territoire sauvage. Ouais. Surtout quand on quitte les pistes ordinaires, quoi. Hein. Plein de loups, d'aigles, de phoques, avec une vie encore autochtone. Et bon, les Amérindiens, bon, à partir des films, on connaît un peu les Indiens de l'Ouest, hein, avec leur tipi, etc. Mais ce qu'on connaît beaucoup, beaucoup moins, c'est les autochtones de la côte nord-ouest, les Kwakutl et les Tlingit, qui m'intéressent au plus haut point, quoi. Ouais. Ils ont des particularités. Bon, je raconte ça dans mon livre, je ne vais pas m'étaler là-dessus pendant notre conversation. Ce qui m'intéresse aussi en Alaska, c'est qu'il y a tout ça dans mes livres de voyage. Ouais. C'est la rencontre des nations. Il y avait là-haut des Anglais, des Écossais, des Français, des Américains, des Russes, sans parler, bien sûr, des Kwakutl et des Tlingit. Ensuite, les explorateurs, des naturalistes, oui. Vous dites des gens qui quittent leur cadre nationaux, etc. Bon, effectivement, là, je rencontre Alexander Mackenzie, un des premiers, bien avant les Américains, à traverser l'Amérique d'est en ouest. C'est Écossais qui a fait ça, pas les Américains. L'armée américaine l'a fait des années plus tard, mais Mackenzie l'a fait. Et bon, c'est un type que j'admire énormément. John Muir.
Alors oui, parlez-nous de John Muir. Parlez-nous de John Muir. Il y a un très beau passage dans Les Vents de Vancouver sur ce personnage. Qui était-il?
John Muir. Ah, mais merci de le dire. Oui, John Muir. Moi, c'est un type que je connais depuis mon adolescence. J'ai lu tous ses livres. John Muir était. Bon, disons-le d'abord que c'était celui qui a lancé l'idée des parcs nationaux en Amérique. Et donc dans le monde entier. Hein. C'est lui qui a lancé cette idée. Parce qu'il voulait garder les paysages sauvages, avec beaucoup de difficultés, mais c'est lui qui a lancé l'idée. Et lui-même, mon Dieu, avec un morceau de pain et 10 raisins dans sa poche, il était prêt à affronter seul, j'insiste sur la solitude, seul le plus grand glacier de l'Alaska, avec de temps en temps, à ses côtés, un petit chien. qui avait bien. Et je ne m'arrête pas à des Écossais ou à des Européens. Un autre type qui m'intéresse beaucoup, qui m'a intéressé beaucoup en Alaska, et j'ai beaucoup étudié le côté de l'Amérique russe. L'Alaska était russe avant d'être américain, comme j'espère tout le monde sait. Un autre type qui m'intéresse en russe, c'est Alexander Baranov, qui a réglé la chasse russe en Amérique du Nord, mais très sagement, et qui a fait travailler beaucoup les Aléoutes, ceux qui occupaient les archipels entre l'Amérique et la Sibérie, et qui avait l'intelligence, ce qui n'était pas le cas, malheureusement, des Américains de l'époque, un de, Un jour, un de ces chasseurs lui a dit, écoutez, j'essaie de trouver de l'or. Et Baranov, ce russe, Alexandre Baranov, il dit, n'en parlez pas. N'en parlez pas, ce serait la rue, ce serait affreux. N'en parlez jamais. Bon, on sait que d'autres en ont parlé, et on sait les résultats. Ouais. D'abord la rue vers l'or, ensuite l'aveuglement financier d'une certaine Amérique qui n'est pas celle qui m'intéresse. Ouais. L'Amérique qui m'intéresse n'est pas les États-Unis, mais vous avez déjà compris. Donc, et puis bon, il y a d'autres types qui m'intéressent. Ça, ce sont des héros, ce sont des types admirables. Mais je m'intéresse aussi à des escrocs.
Ah oui, aux fripouilles, hein. Il y a des sacrés fripouilles. Mais...
à des arnaqueurs. Il y a un type là dans le joint de Vancouver, il s'appelle Sophie Smith. Un arnaqueur de première, hein. qui a réussi à contrôler toute la ville de Skagway. Skagway, c'était le port pour les chercheurs d'or, quoi. Hein. Et lui, il a fini par contrôler la ville. Un type qui avait joué au poker à côté de Wyatt Earp et de ces types qu'on rencontre dans le West. Lui, il joue au poker à leur côté, à Cheyenne, à Laramie, partout dans le Colorado et dans le Texas. Et puis ensuite, il se dit, il y a des frics à faire à Skagway. Donc, il s'installe, il fait du fric, mais il finit par presque gouverner le pays.
Oui.
Bon, il finit assez jeune encore avec 3 balles dans le ventre, mais bon, ça, c'est la fin de l'histoire.
Est-ce que vous pouvez nous dire...
Moi, j'ai fait mon voyage, quand même, peut-être ça peut intéresser nos lecteurs de Grand Ciel. J'ai fait mon voyage dans un remorqueur remanié, j'ai trouvé ça à Vancouver, de l'armée américaine. L'armée américaine, dans les années 40, 43, etc., ils avaient installé là en Alaska, en haut de l'Alaska, en fait, toute une petite flotte parce qu'ils craignaient une invasion japonaise de l'Alaska. Et donc, ils ont laissé tout ça en haut, là. Donc, mon Américain, que j'ai rencontré à Vancouver, avait récupéré un remorqueur, l'avait fait remanier à Seattle, un peu plus en bas aux États-Unis, dans l'État de Washington. Et avec ce remorqueur remanié, il était prêt à faire presque n'importe quoi, cargo, marchand, enfin, tout sort de choses pour gagner un dollar, quoi. Hein. J'ai rencontré dans un bar, on s'est entendu, et ma foi, j'ai fait le voyage avec lui le long des petits ports de l'Alaska, Ketchikan, Skagway, Sitka, Juneau, etc., jusqu'à Homer, dans le nord, quoi. Et après, à Homer, j'ai loué un sloop de 15 mètres pour faire les petites baies encore plus au nord. Et le livre Les Vents de Vancouver termine sur une tempête vraiment, je peux dire, quand même assez dangereuse. Ouais. Une tempête, surtout sur un sloop de 15 mètres, c'est pas grand-chose. Hein. Dans le détroit de Cherikov, la fin du livre, c'est ça. La sortie de la tempête et l'exploration d'une petite baie tranquille, tout à l'opposé de la tempête, où, en déambulant le long de la plage, je suis tombé sur un animal très rare, très, très sauvage, c'est le carcajou. Et pendant une minute, on s'est regardé les yeux dans les yeux. Vraiment, l'animal un des plus sauvages du monde, qui, quand il est pris dans un piège, ça peut lui arriver, est prêt à mordre sa jambe pour échapper. On s'est regardé dans les yeux, et puis, lui, il a détalé, et ma foi, moi, j'ai continué ma déambulation avec cette vision dans la tête et avec la décision encore plus ferme d'écrire un livre qui puisse raconter de telles expériences, de tels moments, quoi.
Les visions, c'est très important dans votre poésie. Hein. Je pense au héron blanc. Ici, plus d'Orient ni d'Occident, le héron blanc s'est fondu dans la brume, dites-vous, dans Terre de Diamant. Il y a comme ça des animaux, comme ça, des visions presque sacrées qui vous hantent encore.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors, non, vous savez, le grand moment de l'existence pour un être humain, c'est quand il... quand il sort de cet être un peu trop dicté, quoi, un peu trop encadré. Et la première rencontre, et tout le monde a l'expérience de ça. Moi, j'ai parlé d'un carcajou sauvage, mais tout le monde peut l'expérimenter et l'expérimente quotidiennement avec un chien ou un chat. Hein? Sentir qu'on a un rapport en dehors de l'humanité, d'abord avec les animaux. Et si on peut entendre ce rapport jusqu'à des choses inanimées, jusqu'à des rochers, jusqu'à des algues, alors là, on augmente son existence.
Ouais.
On n'est pas moins homme, au contraire, on n'est plus homme. Ce qui est terrible, c'est quand l'humanité s'enferme dans l'humanité, ça se dessèche, ça ne connaît que d'autres êtres humains, et on a beau faire des prêches pour dire « aimez-vous les uns les autres », dans ce contexte-là, on finit par se détester les uns les autres, on finit par se cogner dessus, on finit par le terrorisme, par la violence stupide. Hein. Il s'agit d'augmenter un peu sa sensation de vie. C'est tout mon travail, là. Hein. C'est toute ma poétique, quoi. Augmenter sensation de vie en allant vers d'abord les animaux, ensuite vers la nature entière.
Alors, le carcajou, on l'avait déjà rencontré et croisé dans la Route Bleue, d'ailleurs. Il y a un très,
exactement,
très joli passage dans la Route Bleue.
Voilà. Il y a des rapports dans tous mes livres, quoi. Au moment où je les écris, je suis très sensible à tous ces rapports. Je les ai en tête. Au moment où je vous parle maintenant, bien sûr, je n'ai pas tous ces rapports en tête. Mais bon, en ce moment, en Écosse, on est en train de faire de commencer à faire mes œuvres complètes. Et là, je verrai moi-même toutes les correspondances. Mais il y a des correspondances dans tous mes livres. Comme vous venez de dire, le carcajou, je l'ai rencontré rapidement au Labrador, je le rencontre en Alaska. Mais il y a des rapports de ce genre dans tous mes livres. Ils font tous partie d'un ensemble. Ce n'est pas, comment dire, je ne travaille pas en termes de série, un livre après l'autre. Bon, je vais situer un roman aujourd'hui en Amérique, ensuite, puisqu'il y a eu une guerre en Irak, je vais situer mon deuxième roman en Irak, et ensuite, puisqu'on parle du sida, je vais faire un roman sur le sida. C'est une littérature qui ne m'intéresse absolument pas.
Hein? Vous revendiquez le droit d'être inactuel, je crois.
Hein, pardon?
Vous revendiquez le droit d'être inactuel.
Ah, bah oui, je suis à la fois inactuel et actuel, quoi.
Oui.
Il est vrai que je ne passe pas mon temps à commenter l'actualité. ça, c'est le côté inactuel. Mais croyez-moi, je suis au courant. Hein.
Oui, oui.
Mais j'essaie de saisir les choses à un niveau plus profond, quoi.
Ouais.
Ça m'arrive de faire des essais sur la politique. J'ai fait des essais sur la politique. Un des récents livres en anglais, il n'est pas encore traduit en français, mais c'est un livre sur la culture et la politique.
Ouais.
Ça s'intitule, pour ceux qui connaissent l'anglais, « Ideas of Order at Cape Wrath », idées d'ordre au Cap de la Colère. C'est un cap au nord de l'Écosse. Et tout le long de mes livres de voyage, il y a des remarques sociales et politiques. Quoi. Quelquefois, une petite conversation, et je pense à un incident dans les vents de Vancouver, une petite conversation dans un café que j'écoute venant d'une table voisine entre hommes d'affaires américains et canadiens, peut être beaucoup plus révélatrice d'un état de choses qu'un rapport politico-statistique.
Ouais,
hein.
Ouais,
quant à la situation contemporaine, l'actualité dans ce sens-là, bon, qu'en faire, hein, disons-le rapidement, il faut le développer, j'ai développé dans des essais par ailleurs et dans des articles aussi. Bon, notre situation contemporaine, bon, l'éducation est un désastre. Je crois que ce n'est plus un secret pour personne. Et les récentes propositions politiques ne vont pas dans le sens d'autre chose, au contraire. La culture, sauf exception, et heureusement, il y a toujours des exceptions, mais la culture, c'est de plus en plus un cirque, quoi. Hein. Il y a une production culturelle, il n'y a jamais eu autant de livres, autant de cinéma, autant de films, autant de théâtre, autant de ceci et autant de cela, des bruits, des images en profusion, mais c'est une production culturelle sans culture, au sens profond que j'ai indiqué au début de notre conversation, quoi. Quant à la politique, malheureusement, et j'en suis désolé, mais ça prend de plus en plus les apparences d'un vaudeville, quoi. Mais cela dit, et tout cela étant dit, critiquement, moi je ne suis pas. Il est évident que je ne suis pas optimiste. Hein. Être optimiste, vraiment, il faudrait être très béat, sinon un peu bête, hein, à mon avis, pour être optimiste. Mais je ne suis pas pessimiste non plus, parce que c'est trop facile de dire il n'y a rien à faire, bof, que j'appelle ça le bofisme, quoi. Mais je ne suis ni optimiste, ni pessimiste, ni possibiliste. Quant à la mondialisation, ben vous avez parlé d'actualité. Bon, le grand mot, c'est la mondialisation. Mondialisation, moi je suis mondialiste, mais pas dans le sens de la mondialisation. Parce que le sens que ça prend chez nous aujourd'hui, c'est un globalisme bureaucratique axé uniquement sur des intérêts financiers. C'est, bon, je dirais que c'est l'utopie du capitalisme. Hein. Et j'ai beaucoup étudié le capitalisme. Je viens d'un pays, l'Écosse, dans l'université que j'ai fréquentée. C'est là qu'on a vu la première analyse du capitalisme. Je pense au livre, bien sûr, d'Adam Smith, écossais, sur la richesse des nations. Hein. Donc, c'est l'utopie du capitalisme, avec tout ce que ça implique. Et Adam Smith, vous voyez déjà, un abêtissement généralisé, un infantilisme, un abrutissement, un marché où les livres seraient vendus comme des chaussettes. Disait Adam Smith à la fin du 18e. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Donc, on vit aujourd'hui dans un monde, et j'essaie de voir les choses de loin, parce qu'on peut se perdre dans les détails. Il y a des médias pour vous perdre dans les détails tous les jours. L'autre jour, j'ai entendu à la radio une petite conversation entre X et Y. X, c'était la radio, je dirais pas la radio, parce qu'il y a radio et radio, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moins bien. Et le journaliste disait, mais nous donnons de l'information continue. Et la réponse de l'interviewé, rare d'avoir une telle réponse, il dit, mais non, vous n'êtes pas de l'info, vous faites pas de l'information en continu, vous faites du bavardage continu. silence glacé dans le studio. Bon, donc on a d'un côté dans notre monde ce globalisme à intérêt purement financier que je déteste évidemment, que je rejette totalement. Mais de l'autre côté, ce qu'on a la plupart du temps, ce n'est que des réactions à cela. Et vous avez toutes sortes d'idéologies identitaires bornées, toutes sortes de localismes étroits, des replis. Alors je ne me situe ni dans l'un ni dans l'autre camp. Je suis pour ce que j'appelle un monde ouvert. J'ai utilisé le monde tout à l'heure, je reviens sur ce thème. Il y a mes poésies complètes, ça s'intitule justement « Un monde ouvert ». Quoi, hein. Ce monde ouvert est le thème général de tous mes livres, quoi. À la fois des essais, l'esprit nomade, la figure de dehors, les narrations, le vent de Vancouver, les signes sauvages, et dans les poèmes, je cite cette anthologie « Un monde ouvert ». Quoi. Ouais. Alors, voilà pour l'inactuel et l'actuel. Quoi.
Vous parlez de monde ouvert, vous vivez donc dans un monde ouvert, mais vous savez aussi vivre entre quatre murs, car grand voyageur, vous l'êtes certainement, mais vous êtes aussi un grand demeurant. Votre maison démarrée en Bretagne, il y a eu Gourgounel en Ardèche, col de Marie-Blanque dans les Pyrénées, et là encore, d'ailleurs, ce sont souvent des pays difficiles, hein, d'ailleurs. Hein.
Tout à fait. Ouais. Moi, j'aime bien, d'ailleurs, le mot contrée, que j'aime beaucoup. Contrée. Dans le mot contrée, il y a contre. C'est-à-dire, c'est tout le contraire de douiller, de préparer à l'avance, etc. Là, j'aime bien qu'il y ait une certaine résistance dans le milieu, quoi. Une force, une densité, quoi. Oui. Donc, après avoir choisi, après avoir été né en Écosse, qui est déjà un pays rude, venant en France, j'ai vécu en Ardèche, j'ai vécu dans les Pyrénées-Orientales, et depuis quelques années maintenant, la côte nord de la Bretagne, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce que j'y étais forcé, c'était par choix, quoi. Donc effectivement, vous avez raison de dire que s'il y a un moyen voyageur, il y a aussi, je crois que vous avez utilisé le mot demeurant, j'aime bien ce mot-là, quoi. Effectivement, il y a une dialectique, on peut parler d'une dialectique, de l'errance et de la résidence. Il y a un poème japonais d'ailleurs, que j'aime énormément, qui dit ceci. Et ça me convient parfaitement. Il est sur la route sans avoir quitté la maison. Il est dans la maison sans avoir quitté la route. Un de mes premiers livres, et justement, moi, si j'ai été, disons-le, assez souvent en voyage, je suis aussi quelqu'un qui est très attiré par une résidence dense, quoi, hein, un lieu où vivre de manière permanente, de manière dense. Le premier livre de prose que j'ai écrit, c'était un livre sur 7 chambres dans Paris, parce que après avoir terminé mes études, je suis allé quand même tout de suite à Paris. J'ai vécu 3 ou 4 ans à Paris avant d'aller ailleurs, en Ardèche, etc. Mais ça s'intitule « Les lames incandescentes ». C'est 7 chambres parisiennes. C'était l'exploration de Paris et vivre dans des chambres, parce que c'est tout ce que je pouvais avoir à ma disposition. Oui. Et encore des chambres au septième étage. Hein. Bon,
et c'est un livre assez sombre, d'ailleurs. Hein.
Hein?
C'est un livre assez sombre, d'ailleurs.
Ouais, mais j'espère avec des éclairs de...
oui. oui.
Des jubilations. Mais ça s'appelle les limbes incandescentes.
Ouais.
Le côté sombre, c'est les limbes. Il y a quand même de l'incandescence.
Oui.
Enfin, je ne sais pas que j'espère, je sais. Oui. Mais j'espère que vous lisez ça aussi.
Je confirme.
Voilà. Aussi, aussi de l'Ardèche. Effectivement, vous avez évoqué l'Ardèche. Mon deuxième livre, enfin, le premier livre de prose narrative publié, Lettre de Gourgounel. Gourgounel, c'était le nom de la maison. Ça, c'est un. Bon, Ardèche, vous avez parlé tout à l'heure de pays sévères. L'Ardèche, Mallarmé, un des poètes français que j'aime aussi, a enseigné l'anglais en Ardèche. C'est un détail qu'on oublie souvent, y compris dans les manuels. Mais il a enseigné l'anglais en Ardèche et il disait que l'Ardèche résumait sa vie, l'art et la dèche. C'était encore plus vrai pour moi. Hein. Lui, il avait un salaire régulier, moi, j'avais rien du tout. Hein. J'avais 3 sous. Et c'était, mais j'avais 3 sous, mais j'avais un champ de vie énorme autour de moi. Mmh. Et les lettres de Gourgounel, c'était la tentative de vivre très densément, très intensément, sur une vieille baraque de la montagne Cévenole, en Ardèche. Gourgounel, quand on lit ça de manière provençale, de manière occitane, ben, on entend gourgue, on entend gargouiller, c'est là où ça gargouille. C'est-à-dire, c'est un lieu de source. Et la lettre de Gourgounel, pour moi, c'était un lieu de ressourcement.
Oui.
Quant à la Bretagne, effectivement, là aussi, un livre, vous avez raison, que j'ai consacré à une maison, à un lieu de résidence, la Maison des Marais. Et le nom que j'ai donné à cette maison, c'est Gwynedd. Je suis en train de vous téléphoner de Gwynedd.
Uh-huh.
Gwynedd, c'était un vieux mot celtique. Quand on a traduit la Bible dans les langues celtiques, on a utilisé ce mot-là pour traduire le paradis. Hein? Mais le sens originel n'est pas paradis. Le sens originel de ce mot-là, c'est le lieu de la plus grande concentration. Et donc, j'essaie de vivre dans des lieux avec la plus grande concentration possible. Et cette maison dont je vous parle, celui qui est de quelqu'un qui est à la fois un ermite et un errant, j'aime beaucoup ces deux mots-là, c'est un ermitage, et c'est aussi, ça m'arrive de le dire en riant, bien sûr, c'est aussi une usine, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail ici, hein, tous les jours, hein, 7 jours sur 7 et 12 heures par jour,
ouais.
Pour écrire mes 100 livres.
et puis...
Il y a toujours des travaux en cours, et puis, quand même, j'ai fondé il y a quelques années, vous le savez peut-être, l'Institut international de géopolitique.
Ouais.
Et tous les jours avec ma femme, on est en rapport à travers l'internet avec 2 ou 3 pays, quoi.
Ouais.
Donc les jours se passent avec énormément de travail, pas toujours dans l'écriture, beaucoup d'écriture, beaucoup de lecture, beaucoup de correspondance, beaucoup de contacts, et tous les jours quand même 1 ou 2 heures de marche le long de la côte.
Ouais.
Ça fait partie de la journée de travail.
Alors, vous êtes, Kenneth White, le dépositaire de quelques néologismes bien sentis. Alors, je vais en prendre 2. Il y a d'abord la géopoésie, vous venez de le dire. Et puis, peut-être qu'on va commencer par ça. Il y a le surnihilisme. C'est quoi?
Ouais, je le reprends tout de suite quand même. Vous avez dit géopoésie. Non, c'est pas géopoésie,
géopoétique.
C'est géopoétique. Pourquoi? Parce que poésie, c'est une section de la littérature. Poétique, c'est une praxis plus générale, quoi. Hein. Et autant poésie est une activité humaine, autant j'étends le mot poétique, je vois une poéticité dans le monde entier. Est-ce que vous voyez la différence que je fais là? Je pense que vous voyez tout de suite. OK. Donc, ça, cette petite précision faite, géopoétique, pas géopoésie, et pas non plus, comme on l'entend, on peut se tromper au téléphone, géopoétique et pas géopolitique. Hein. La géopolitique, c'est le rapport entre les nations sur l'échiquier économique et militaire du monde. La géopolitique, c'est un rapport profond au monde de chaque personne, chaque individu, chaque être humain, quoi. Peut-être que les deux mots les plus répandus autour de mon travail, et que j'ai mis en circulation, si je puis dire, c'est nomade intellectuel et géopolitique.
Oui.
Alors, nomade intellectuel. Qu'est-ce que c'est qu'un nomade intellectuel? Bon. Ce n'est pas l'intellectuel idéaliste. hein, qui commence chez Platon, quoi, hein, le platonisme. Ça, c'est l'idéalisme. Hein. Je ne suis pas idéaliste, je ne suis pas un intellectuel platoniste. Ce n'est pas non plus l'intellectuel engagé de Jean-Paul Sartre. Pourquoi ? Parce que l'écrivain engagé s'engage souvent trop tôt, sans avoir pensé assez la situation, et les résultats de ces interventions sont quelquefois pires que le contexte d'origine. Inutile, je crois, de multiplier les exemples. Hein. Je ne suis pas un intellectuel engagé non plus. Je ne m'engage pas facilement. Je ne m'engage pas, disons, à un quart de tour, quoi. Hein. Non, absolument pas. C'est trop facile et c'est souvent néfaste. Je suis un intellectuel nomade. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, j'essaie de couvrir, d'explorer des territoires et des cultures, et j'essaie de voir les choses de manière plus profonde, qui va jusqu'aux racines des choses. Hein. Ensuite, géopolitique. Alors là, j'ai beaucoup, beaucoup développé ces derniers temps, depuis il y a une douzaine d'années maintenant, là, mon livre sur la géopolitique, Le plateau de l'Albatros. Bon, en deux mots, parce que c'est une grande affaire, ça. En deux mots, qu'est-ce que c'est que la géopolitique? Bon, tout à l'heure, on parlait des cultures du monde. Dans toutes les cultures du monde que j'ai étudiées pendant des années, on peut constater, et je me suis rendu compte de ça avec le temps, il y a toujours un centre d'intérêt qui intéresse tout le monde. Par exemple, à l'époque paléolithique, néolithique, le centre d'intérêt, c'est les animaux. On n'a qu'à penser aux cavernes du sud de la France et du nord de l'Espagne. C'est les animaux, c'est le rapport à l'animal qui est primordial, qui est le centre d'intérêt. Si on pense à la culture chrétienne, par exemple du Moyen-Âge et depuis, le centre d'intérêt, c'est la Vierge Marie et le Christ. Tout le monde, c'est-à-dire que ce qui caractérise une culture, c'est que tout le monde pense à la même chose. Éventuellement, je veux bien, avec des discours, des niveaux de discours différents, mais le philosophe dans son cabinet, le paysan dans son champ, l'artisan, tout le monde dans une culture chrétienne a son intérêt porté sur la Vierge Marie et le Christ. En Grèce, le centre d'intérêt, c'est l'agora. Là, on discute politique. Les Grecs inventent la politique. Et c'est à l'agora. Là, on discute politique au sens noble du mot, comment un groupe d'êtres humains va vivre plus ou moins décemment ensemble. Ça, c'est la politique au sens noble du mot. Le reste, c'est de la politique aérienne. Et malheureusement, il y en a beaucoup. En Chine, le centre d'intérêt, c'est le centre. La Chine comme centre du monde, Pékin comme le centre de la Chine, la cité interdite comme le centre de la cité, et à l'intérieur de la cité interdite, les chambres de l'empereur. Le centre du centre du centre du centre. Donc il y a toujours un centre d'intérêt. Alors je me suis posé la question à un moment donné, il y a une vingtaine d'années maintenant, peut-être plus, 30. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle nous tous, dans le monde, nord, sud, est, ouest, au-delà de toutes nos différences de politique, de religion, d'idéologie, est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle on peut s'entendre tous et toutes? Et je me suis dit, oui, peut-être, la terre sur laquelle nous essayons de vivre, la plupart du temps très mal et très confusément. D'où le géo dans ce terme de géopolitique, politique. C'est la terre. Ensuite, politique. Encore un mot très, très chargé. Encore une fois, si on fait le tour des cultures, comme j'ai passé des années à le faire, on se rend compte qu'il y a aussi, à côté des centres d'intérêt que je viens d'évoquer, il y a toujours une politique qui est vraiment porteuse de toutes ces puissances et qui les exprime d'une manière très dense et intense. C'est le but de la politique. Par exemple, j'ai évoqué la culture paléolithique et néolithique. Là, vous avez les chants du chaman. Oui. Qui sont au centre des cultures. J'ai évoqué la culture chrétienne. Là, vous avez les psaumes. En Grèce, ils inventent la politique, d'accord, mais ils savaient très bien, les Grecs, les premiers Grecs, que sans la politique d'Homère, la politique océanique d'Homère, la politique se dessécherait et deviendrait ce que j'ai appelé tout à l'heure la politique aérie, s'il n'y avait pas la poésie océanique d'Homère qui irrigue la culture, qui irrigue la cité. Hein? En Chine, avec cette bureaucratie centrale qui est leur préoccupation, même encore aujourd'hui, hein, même post-maoïste, en Chine, vous avez aussi la contrepartie de ça, vous avez un livre de poèmes qui s'intitule « Le livre des odes ». Et à l'encontre de cette bureaucratie centralisante à l'excès, vous avez ce livre des odes qui, je cite le vieux poème chinois que j'ai en tête depuis des années, qui véhicule le vent des territoires, c'est-à-dire qui ouvre un espace. Hein. Alors, mon but en politique, en géopolitique, qui couvre politique, culture, poésie et littérature, qui couvre tout en fait, c'est une tentative d'ouvrir un monde, c'est un levier, une clé si on veut, pour ouvrir un monde. Moi, mon but a été de, et toujours, que ça puisse continuer longtemps, créer une politique capable de véhiculer toute une culture. C'est ça mon but. Et c'est énorme. Je me rends compte que c'est énorme, d'où le besoin de mes 100 livres. Et c'est énorme aussi dans un autre sens de ce mot que j'aime bien. Énorme, c'est en dehors des normes, hein, en dehors des cadres. Moi, j'aime bien, pour rester un peu plus auprès de ce mot poétique, qui est un mot qui nous est cher tous les deux et pas seulement à nous deux, qui revient d'ailleurs, même si vous regardez les derniers chapitres de Livre des sciences aujourd'hui, le mot poétique revient, quoi. Hein. Mais bon, moi, quand je pense à ce mot-là, j'ai fait beaucoup d'études grecques et je remonte jusqu'à Aristote, c'est-à-dire, disons, le début de la philosophie occidentale. Et Aristote a un terme, nous, poietikos, et ça veut dire l'intelligence poétique. Et la poétique, pour moi, c'est ma définition, disons, dense. La poétique, pour moi, c'est la dynamique fondamentale de l'intelligence. Waouh.
Implosion silencieuse dans mon cerveau.
Tant mieux, tant mieux.
Il nous reste une petite minute, deux petites minutes. Je voudrais D'abord, je voudrais vous citer un haïku, parce que quand je pense à vous, je pense toujours à ce poème de Soseki.
Oui.
J'ai jeté derrière moi cette petite chose qu'on appelle le moi, et je suis devenu le monde immense.
Ah, c'est formidable.
C'est formidable, ça. C'est vous, ça.
Oh, j'aurais pu écrire ça. Non, j'aime beaucoup le haïku.
Oui.
J'ai commencé à étudier le haïku très tôt. Hein. En fait, j'ai commencé mon intérêt pour la poésie orientale et pour la pensée orientale très, très tôt. J'ai eu la chance, quand j'étais encore jeune adolescent, 14-15 ans, dans mon village écossais, un des petits boulots que je faisais, c'était de colporter le registre des votants de porte en porte pour que les gens signent pour avoir droit au vote, quoi. Hein. Et tout le monde a signé, sauf je suis arrivé devant la porte d'une chaumière un après-midi, je frappe à la porte et un vieux type vient à la porte, un vieux type pour moi très vieux, moi j'avais 14-15 ans et lui il avait des longs cheveux blancs, hein, vraiment il m'avait l'air très ancien. Il a refusé de signer. J'ai dû avoir les yeux écarquillés. Il m'a dit, tu veux savoir pourquoi? J'ai dit, oui, oui, j'aimerais bien savoir pourquoi. Je veux toujours savoir pourquoi. Alors, il me dit, entre. Ah bon, c'était un vieil anarchiste, naturaliste aussi, mais aussi qui avait une bibliothèque orientaliste. Donc, à l'âge de 14-15 ans, j'étais déjà en train de lire des Upanishads et des sutras.
Ah. Hein.
Et je suis tombé à cet âge-là, déjà. Je veux dire, l'orientalisme, pour moi, ne date pas des années 60. Ni des beatniks et des choses comme ça, non. J'avais un sutra, non, c'était un Upanishad, je crois. Le Chandogya Upanishad, et je suis tombé sur une petite phrase, tu es cela. C'est-à-dire, tu n'es pas enfermé dans ta petite personne, tu es possiblement, potentiellement, en rapport avec le monde entier. Ça rejoint, je pense, exactement le haïku que vous venez de citer, et ça peut-être résume tout ce qu'on a essayé de dire ensemble là cet après-midi.
Et voilà, cette émission se termine. C'est une émission spéciale Kenneth White de la route inconnue. Kenneth White qui, je vous le rappelle, sera donc à Chartres le vendredi 27 mai à 18h à la librairie L'Esperluette et le lendemain, le samedi 28 mai à 15h30 à la médiathèque de Chartres pour une rencontre-conférence sur le nomadisme intellectuel et la géopolitique. Politique. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente fin de journée à notre écoute, évidemment.